notre conférencière, c'est Isabelle Sommier, qui est actuellement professeure de sociologie politique au département de sciences politiques de l'université de Paris 1. Elle a une formation en sociologie politique, en sciences sociales, et une thèse de doctorat en sciences politiques sur le thème « La forclusion de la violence politique, ouvrier intellectuel en France et en Italie depuis 1968 ». Elle a son actif de nombreuses publications, La violence politique et son deuil, l'après 68 en France et en Italie, auprès de l'université de Rennes en 1998, Les mafias en 1998, Le terrorisme dans la collection Domino chez Flammarion en 2000, Les nouveaux mouvements contestataires à l'heure de la mondialisation, toujours en Domino chez Flammarion, Radiographie du mouvement altermondialiste en collaboration, La dispute en 2005, La France rebelle en co-direction de Xavier Crétier chez Michalon, La violence révolutionnaire, presse de Sciences Po, et puis, tout dernier ouvrage, Les dimensions émotionnelles du politique, presse universitaire de Rennes en 2012. Donc je lui laisse la parole pour nous parler des processus des processus de radicalisation. Et puis, bien sûr, après son intervention, vous pourrez lui poser des questions. Voilà. Merci. Isabelle, c'est à vous.
Merci beaucoup, Yves. Bonsoir à toutes, merci à tous. Merci d'être venus malgré le soleil. Alors, donc, cette conférence s'intitule « Les processus de radicalisation », ce qui n'est peut-être pas forcément très clair. Donc, d'emblée, de quoi vais-je parler aujourd'hui, hein ? Eh bien, je vais parler de l'engagement radical. Alors comment le définir, hein? Eh bien, je dirais que l'engagement radical, comme vous le voyez sur le PowerPoint, à partir d'une posture qui est une posture de rupture vis-à-vis de la société d'appartenance, va accepter, au moins en théorie, le recours à des formes non conventionnelles d'action politique, éventuellement illégales, voire violentes. Donc, j'imagine que pour beaucoup, l'engagement radical renvoie à la question du terrorisme, mais ne s'y épuise pas, hein, puisque, comme je le disais, d'une part, la catégorie terrorisme fait problème d'un point de vue scientifique et certains la refusent, et d'autre part, dans l'engagement radical, eh bien, on ne passe pas nécessairement à la violence, même si on est disposé à le faire, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue matériel. Et donc la question que je vais essayer de traiter ce soir, c'est d'essayer de comprendre comment un individu qui est un militant va se radicaliser et éventuellement donc envisager le passage à l'action armée, même s'il n'y passe pas. Alors, la question qui se pose d'emblée, c'est de savoir si l'engagement radical est un engagement extraordinaire, au sens de qui sort de l'ordinaire. Alors, bien entendu, sans doute qu'il sort de l'ordinaire, et sans doute constitue-t-il une déviance, hein, en particulier dans nos sociétés contemporaines, qui sont des sociétés pacifiées et qui sont caractérisées par l'interdit de la violence privée. Donc l'engagement radical, il est quasi unanimement réprouvé dans nos sociétés. Il déchaîne les passions, également sur la double face à la Janus, hein, de fascination-répulsion, hein, pour les figures comme le terroriste, le tueur en série, le traître, les figures de l'ombre, on va dire. Et il est stigmatisé le plus souvent sur le registre de l'irrationnel et ou de la perversion mentale. Alors c'est d'ailleurs sur ce registre, hein, du pathologique, que la plupart des études sur le terrorisme, hein, ont abordé cette question de l'engagement violent. La plupart, jusqu'à une période récente, hein, des études donc sur le terrorisme ont adopté une perspective psychologique, voire psychiatrique, et ont renvoyé l'image qui est au cœur de ce qu'on appelle la terrorologie, hein, c'est l'étude du terrorisme, hein, d'un militantisme qui serait tout à fait spécifique, qui serait anormal et par conséquent qui serait rétif à toute forme d'appréhension, aux autres modes d'appréhension des formes d'engagement dits ordinaires, c'est-à-dire non violents. Hein. Il y a une telle spécificité, selon ce point de vue, hein, qu'il faudrait construire hein, des catégories et des modèles d'analyse différents de ceux qu'on peut employer pour l'engagement non violent. Alors, dans cette perspective, hein, qui naît à partir du début des années 70, hein, eh bien, va donner lieu à des enquêtes. Une des premières conduites hein, dans cette perspective hein, est une enquête qui a été conduite par un psychiatre, Bollinger, à la demande du ministère de l'Intérieur ouest-allemand. C'était la période de la fraction armée rouge, dite Banda Bader, hein, et du mouvement du 2 juin. Et donc ce psychiatre va expertiser donc des militants de la fraction armée rouge et du mouvement du 2 juin incarcérés. Et il va expliquer leur engagement par leur agressivité et par ce qu'il appelle une identité négative, qui serait issue d'histoires personnelles accidentées et de conflits familiaux, donc qui se nicheraient, hein, des dispositions hein, qui se nicheraient dans la petite enfance. Un peu plus tard, une autre enquête conduite là encore par un psychiatre hein, qui est Gérald. Sur ce, j'oublie mon PowerPoint. J'allais vous dire qu'on passait de la question du pourquoi à celle du comment. Je ne suis pas familière du PowerPoint. Donc voici la perspective psychologique. Donc cette enquête conduite par Bollinger et la seconde. Il y en a eu beaucoup, bien entendu, mais celle que je voulais expliquer rapidement, c'est celle donc de Gérald Post, à la même période, hein, donc là encore, en concernant des militants d'organisations d'extrême gauche passant à la lutte armée, et à la au début des années 70, en l'autre vague violente hein, et d'inspiration indépendantiste, donc ça sera son deuxième échantillon, hein, sur les nationalistes, hein, basques, irlandais, etc. Donc pour lui, eh bien, le comportement terroriste répond à ce qu'il appelle des forces psychologiques. Et là encore, ces forces psychologiques, elles incubent dans la petite enfance. Et c'est au cours de la petite enfance que va se forger deux types de personnalités qui seraient des personnalités type des terroristes en question. Hein. D'un côté, ce qu'il appelle l'anarchiste idéologue. Alors l'anarchiste idéologue aurait pris les armes, selon lui, hein, contre le gouvernement allemand, c'était essentiellement celui-là auquel il pensait, hein, car il est en révolte contre le père, et le père, eh bien, il est symboliquement attaqué à travers l'État. À côté de cet anarchiste idéologue, donc qui correspondrait aux militants des organisations de type fraction armée rouge, eh bien, on aurait à l'inverse ce qu'il appelle le nationaliste sécessionniste, donc les militants de type basque, indépendantiste basque, nord-irlandais, etc., hein, qui, lui, serait trop attaché à une figure parentale qui était déjà déloyale vis-à-vis du régime. Et donc la deuxième génération, celle des enfants, les enfants ayant été élevés comme ça dans cette ambiance de haine à l'égard de l'État central, eh bien, les enfants se radicalisent et passent donc à la lutte armée par le recours aux armes. Bon, on verra que, moi je ne crois pas du tout hein, à cette thèse, vous allez le voir tout de suite. Cela étant, il est vrai hein, que, on le verra, hein, la socialisation primaire, c'est-à-dire l'éducation, joue un rôle, mais un rôle parmi d'autres facteurs, bien entendu. Bon, c'est un exemple hein, de cette approche psychologique, voire psychiatrique. Alors, c'est la recherche hein, d'une pathologie particulière, qu'elle soit narcissique, qu'elle soit paranoïaque, agressive, etc., hein, qui caractériserait donc les militants radicaux, c'est une recherche qui a été vigoureusement critiquée et qui est de plus en plus critiquée et qui va finir par être abandonnée hein, par d'autres spécialistes des mêmes disciplines, c'est-à-dire la psychologie, hein, travaillant sur le terrorisme, par exemple John Horgan, ou sur un autre registre, parce qu'il n'est pas psychiatre en tant que tel, Marc Sageman, qui a travaillé sur les djihadistes. Outre que cette recherche d'une pathologie particulière est critiquable et critiquée par les spécialistes, eh bien, il faut dire que les résultats de ces recherches sont tout sauf probants. Alors pourquoi ne sont-ils pas probants? Eh bien pour deux raisons. Soit parce que les conclusions de ces recherches sont contradictoires. L'un dit une chose, l'autre dit son contraire, hein, donc il y a une grande confusion. D'autre part, ces conclusions sont indémontrables sur le plan scientifique car elles sont toujours faites en absence d'un groupe de contrôle. Hein. Donc on dit, voilà, on a ces personnes incarcérées qui souffrent de troubles mentaux. Bon, d'abord, ces troubles mentaux peuvent venir de leur expérience de militantisme ou d'incarcération, hein, mais surtout, on n'a pas de groupe de contrôle d'individus ordinaires où on pourrait voir quel est, si effectivement le pourcentage d'individus paranoïaques, mettons, hein, est supérieur dans chez les personnes donc, qui se sont engagées par rapport à, aux personnes, on va dire, ordinaires. Alors ça, c'était une première approche donc des études sur le terrorisme. Et vous en avez une seconde, qui sont les approches stratégiques. Alors c'est un autre pôle, hein, puisque les approches stratégiques du terrorisme ne sont pas développées par des psychologues ou des psychiatres, mais essentiellement par des sociologues et des politistes, des spécialistes de sciences politiques. Alors, selon ces approches stratégiques, hein, bon, l'auteur le plus connu est Martha Crenshaw, eh bien, le terrorisme, c'est un choix. Et ce choix, c'est un choix stratégique, hein, qui repose, comme tout choix rationnel, du point de vue de ces études, hein, qui développent un modèle de l'acteur rationnel, hein, eh bien, ce choix, il se réalise sur un calcul coût-avantage. C'est pour ça que j'ai fait cette balance, en quelque sorte, de la justice. Hein, un calcul coût-avantage qui est fondé sur un critère premier, qui est le critère de l'efficacité. Hein. Qu'est-ce qui va être le plus efficace pour atteindre l'objectif poursuivi, hein. Alors, il sera choisi, hein, selon ces recherches, cette stratégie terroriste sera choisie soit après échec des autres stratégies, des autres méthodes employées, hein, sur le registre d'ailleurs, on a tout essayé et seule la violence paye, hein, on a essayé les manifestations, les sittings, la propagande légale, etc. On est réprimé et donc on est acculé, on ne peut pas faire autre chose, hein, et donc c'est le choix donc de la violence armée, où, dit Martha Crenshaw, cette stratégie terroriste va être choisie, non pas après l'échec d'autres modes opératoires, mais par ce qu'elle appelle l'impatience d'agir, hein, pour forcer l'histoire, pour forcer le cours, hein, c'est l'idée, hein, de la propagande par le fait, hein, l'idée de montrer la voie au groupe au nom duquel on entend combattre la classe ouvrière un temps, la communauté de croyants aujourd'hui, etc. Donc, dans cette perspective, le terrorisme, c'est une stratégie indirecte, et ça, c'est tout à fait juste, hein. C'est une stratégie indirecte de confrontation dans un conflit qui est dit asymétrique, hein. Et dans ce cadre, le terrorisme se caractérise, hein, par des actions surprises, des actions innovantes qui visent à susciter un choc et à susciter la terreur dans la population, hein, afin de compenser un manque de soutien populaire et surtout afin de compenser un déséquilibre militaire en faveur de l'État et donc au détriment du groupe armé. Et c'est pour ça que c'est une stratégie indirecte, parce qu'évidemment, militairement, le groupe en question, hein, ne ferait pas le poids face à l'armée régulière, d'où le choix donc de ce qui est considéré comme une petite guerre, au même titre que la guérilla. Alors, cette approche qui a été développée, donc, enfin, ces deux approches, hein, la perspective psychologique et les approches stratégiques, ont été développées sur un terrain très précis qui est celui donc du terrorisme. Et la dernière, l'approche stratégique, rejoint la perspective qui est développée à peu près au même moment, c'est-à-dire on est toujours dans l'après-68, début des années 70, hein, en sociologie des mouvements sociaux. La question de la violence, en effet, a accompagné la naissance de cet autre sous-champ disciplinaire qui est donc la sociologie des mouvements sociaux à partir de la fin des années 60. Cette matière donc née à la fin des années 60 dans un contexte aux États-Unis, dans un contexte qui est un contexte d'effervescence sociale, embarqué par de nombreux mouvements sociaux, à commencer évidemment par le mouvement pour les droits civiques et également le mouvement pacifiste de lutte contre la guerre du Vietnam, la révolte des campus, etc., et une progressive radicalisation des Afro-Américains. Et dans ce cadre, le département d'État va lancer des appels d'offres à des universités pour étudier la question de la violence en sociologie. Là. Et donc, au début, lorsque naît cette discipline, sociologie des mouvements sociaux, la question de la violence est cruciale. Et au départ, elle est analysée de la façon suivante. On considère que la violence n'est pas un comportement inscrit dans la nature humaine, mais c'est un comportement qui répond à des stimuli extérieurs. Essentiellement deux types de stimuli. Qui peuvent aller de concert, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Le premier, en tout cas, c'est l'approche qui a été la plus développée, ça a été l'idée que le comportement agressif est un comportement réactif à une frustration. Le second stimulus à cette agressivité et à l'agression serait l'apprentissage. C'est-à-dire l'idée que le comportement violent, comme tout comportement, eh bien, il répond à un apprentissage qui sera donc valorisé ou inhibé suivant les sociétés, les cultures et les sous-groupes et les sous-cultures. Avec l'idée donc qu'il y a des cultures de la violence comme il y a des cultures pacifiques. Et pourtant, à partir du moment où se développe cette sociologie des mouvements sociaux, eh bien la question de la violence va disparaître de l'horizon de la sociologie des mouvements sociaux dans l'école dominante, et encore aujourd'hui, dans cette discipline. Car la violence intéresse peu, en fait, les sociologues jusqu'à une période récente, les sociologues des mouvements sociaux jusqu'à une période récente, et surtout, elle occupe une place ambiguë. Puisqu'elle peut apparaître alternativement comme la poursuite de la politique dans une perspective à la Clausewitz, suivant lequel la guerre n'est qu'un prolongement de la politique par d'autres moyens, ou alors on considère que le recours à la violence, et c'est en cela que c'est assez proche de la thèse de Martha Crenshaw, c'est une ressource à disposition du groupe, une ressource parmi les autres. Quand on passe à l'action, il faut des ressources financières, des ressources matérielles, etc. Alors au même titre qu'il faut de l'argent, qu'il faut des banderoles, qu'il faut une idéologie, qu'il faut évidemment des troupes, on a aussi la ressource de la violence. Donc l'idée, la violence, c'est une ressource nécessaire à l'action, parmi d'autres, je suis d'accord, comme une autre, et là je ne suis pas d'accord. C'est effectivement une ressource qui peut être utilisée donc à des fins stratégiques, au terme d'un calcul. Dire que c'est une ressource comme une autre, certainement pas, car elle exerce, on va le voir, des effets sur ceux qui y recourent. Donc, dans cette perspective, c'est un outil qui est parfois payant, parfois contre-productif. Alors, ainsi est rendue justice, et c'est très bien, à la part instrumentale de la violence. Le recours à la violence, ce n'est pas un recours irrationnel, il y a une dimension donc stratégique, instrumentale. Mais, en même temps, ça verse dans un biais stratégiste, l'idée que le groupe déciderait, aujourd'hui, on va passer à la violence, ça ne se passe pas, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. En d'autres termes, jusqu'à une période récente, la sociologie des mouvements sociaux, pour expliquer l'engagement radical, était assez faible, on va dire. Et elle souffre encore pour partie, de deux biais fondamentaux. Premier biais, c'est l'idée que tout engagement s'équivaut. Et que le recours à la violence n'est qu'un outil parmi d'autres, au même titre, comme je le disais, que les banderoles, les manifestations, etc. Deuxième problème, deuxième biais de cette sociologie, c'est la négligence pour la dimension microsociologique. On appelle la dimension microsociologique, c'est la dimension de l'acteur, de l'acteur violent, de l'individu violent. Alors pourquoi négligeait-on, et néglige-t-on encore souvent, malheureusement, en sociologie, ce niveau micro de l'individu? Parce que souvent ce niveau microsociologique est associé à tort à une psychologie de l'acteur, en disant ben, nous on est sociologue donc on ne s'occupe pas de l'individu, ça relève de la psychologie. Je pense que c'est faux. Et donc nous on va s'intéresser aux structures sociales, aux structures politiques, aux idéologies, aux organisations, mais certainement pas à l'individu. Alors contre le premier biais, c'est-à-dire l'idée qu'un engagement en vaut un autre, alors pas au sens moral du terme, mais que tout engagement est équivalent et qu'il n'y aurait pas de spécificité de l'engagement radical, eh bien il y a un auteur américain qui a travaillé longtemps sur le mouvement pour les droits civiques, Doug McAdam, qui a distingué de façon très, très opportune, me semble-t-il, entre l'activisme qui peut être à faible ou à haut coût, donc c'est l'idée que tout engagement n'est pas également coûteux. Alors on mesure le coût de l'engagement en termes de temps. Il y en a qui sont plus chronophages que d'autres. En termes d'énergie, en termes d'argent aussi que cet engagement nécessite. Et de la même façon, vous avez un engagement, un activisme à faible ou à haut risque. Et le risque de l'engagement, lui, on peut le mesurer au danger anticipé de cet engagement. Et les dangers peuvent être multiples, de tout ordre, d'un danger physique, un danger social ou un légal, financier, etc. Et que cette variabilité des coûts et des risques dans l'engagement, et bien évidemment, il faut en tenir compte. Et dans ce cadre, l'engagement radical dont je parle ce soir, et bien c'est un engagement qui est à la fois à haut coût, qui est très coûteux, et à haut risque. Donc j'utiliserai quelquefois de façon équivalente engagement radical ou engagement à haut risque. Surtout, McAdam va dégager deux conclusions qui sont des conclusions essentielles et qu'on va retrouver. D'une part, première conclusion, c'est que les logiques de l'engagement à haut risque, donc on dira pour nous ici ce soir de l'engagement radical, ces logiques donc ne sont pas de nature différente des logiques de l'engagement stricto sensu, de l'engagement ordinaire, de l'engagement normal, on va dire. L'engagement ordinaire, j'aime mieux. Il y a simplement donc pas de différence de nature, mais une différence de degré et d'intensité. L'engagement radical est plus intense en raison du fait qu'il est plus coûteux, qu'il est plus risqué. D'autre part, deuxième conclusion, l'engagement radical exerce des effets plus marqués dans la trajectoire biographique ultérieure du militant. Il a pu le montrer à propos des militants blancs qui ont rejoint la cause des Afro-Américains. Certains ont eu un engagement à haut risque car ils ont fait partie d'une campagne qui visait à inciter les Noirs américains à s'inscrire sur les listes électorales dans un État les plus ségrégationnistes qui était le Mississippi, où vous aviez les suprématistes, le Ku Klux Klan, etc. Donc c'était un engagement très radical et un engagement donc risqué, puisque un certain nombre d'entre eux ont été tabassés, voire ont été tués par le Ku Klux Klan. Et quand il va retrouver ces militants-là, il va comparer la trajectoire de ces militants, de ceux qui ont vécu cette campagne, avec des militants qui étaient également aux côtés des Noirs américains et dans la même organisation, mais qui n'avaient pas vécu cet engagement à haut risque. Et il va se rendre compte que les premiers ont une vie encore aujourd'hui plus accidentée en termes professionnels, en termes affectifs, et qu'ils continuent plus volontiers à militer que les autres, par exemple. Donc, l'idée est que ce type d'expérience a des effets donc sur pesants sur la trajectoire donc biographique du militant. Donc comme vous le voyez, on a au cours de ces années 70 et jusqu'à une période récente, eh bien, on a un développement séparé entre, d'un côté, l'engagement ordinaire, plutôt étudié par la sociologie des mouvements sociaux, et de l'autre, les études sur l'engagement violent qui sont vues du point de vue des études sur le terrorisme. Et cette coupure, elle me semble dommageable, car la première, la sociologie des mouvements sociaux, tend à gommer toute spécificité au recours à la violence. Alors que la seconde, les études sur le terrorisme, à l'inverse, tend à voir dans cet engagement un engagement exceptionnel, voire pathologique. Et les deux ont un point commun qui est aujourd'hui totalement remis en question, c'est-à-dire que le point commun, et c'était la question que je posais, dans, est-ce qu'il y a des lois générales en sciences sociales ? Non, il n'y a pas de loi générale en sciences sociales. Et tous les deux se sont focalisés en quelque sorte sur la recherche des causes. Pourquoi devient-on violent ? Pourquoi s'engage-t-on dans des organisations radicales ? En sociologie des mouvements sociaux, hein, on recherche des causes structurelles. Hein, par exemple, la répression aurait un impact. Hein. Sur le terrorisme, c'est plutôt une recherche de causes donc psychiatriques, psychologiques. Hein. Et cette recherche des causes, hein, une recherche en quelque sorte sans fin des causes, hein, a conduit les chercheurs à s'y épuiser. Hein, et au final, à produire des lois se voulant générales, mais qui sont toujours contredites dans le réel, dans la vie réelle et par d'autres chercheurs, car il n'y a pas de loi générale en sciences sociales. Et c'est pourquoi on observe depuis quelques années, c'est très récent, c'est la fin des années 90, un véritable tournant au travers donc de cette nouvelle perspective qui insiste sur les processus de radicalisation. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que cette nouvelle perspective, elle s'observe à la fois chez les spécialistes du terrorisme, qui sont souvent donc des psychologues, mais aussi en sociologie des mouvements sociaux. Alors même qu'il n'y a pas eu de concertation entre les deux. Hein, il n'y a pas eu. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors qu'est-ce qu'on entend par radicalisation, hein? Il y a plusieurs définitions, bien entendu. Hein? J'en ai retenu une de chercheurs américains, hein? Qui considère donc que la radicalisation, c'est un changement donc des croyances, des sentiments, des comportements dans une direction qui justifie, dans des directions qui justifient de façon croissante la violence entre les groupes et exige le sacrifice pour la défense de l'in-group. Donc c'est un ouvrage américain, donc c'est une traduction qui n'est pas forcément très élégante que j'ai faite moi-même. Simplement une chose, hein, bon, évidemment, alors, ce qui est intéressant, c'est cette idée que de façon croissante, la violence, le recours à la violence, même si on n'y passe pas, est justifié entre les groupes. C'est l'idée donc que le militant se dit prêt à se sacrifier pour défendre son propre groupe. C'est ce qu'on appelle l'in-group. En sociologie ou en psychologie, c'est la même chose. L'in-group, c'est son propre groupe. ACMI, TA, etc. Alors, cette perspective donc, dite de la radicalisation, c'est donc penser en termes de processus. Alors, penser en termes de processus, c'est tout d'abord refuser l'idée d'une essence et d'un surgissement inattendu de la radicalité pour, au contraire, penser en termes de dynamiques qui sont inscrites dans le temps et qui mettent en relation à la fois le contexte politique, notamment l'idéologie, disponible ou pas à tel moment, deuxième niveau, le cadre organisationnel. Quelles sont les organisations qui offrent, qui sont porteuses d'offres d'engagement et de changement en rupture. Et troisième niveau, le niveau de l'individu. On passe ainsi de la question du pourquoi, pourquoi devient-on terroriste, par exemple, à la question du comment on le devient. Pour reprendre un titre très parlant d'un article fondateur de cette démarche en psychologie, qui est donc du psychologue John Horgan, c'est l'idée, c'est « from profiles to pathways », donc des profils au chemin, « and roots to roots », et des racines aux routes. Voilà. Donc, on abandonne la recherche de causes générales, de lois générales, au profit d'une analyse qu'on va qualifier de processuelle, c'est-à-dire une analyse qui va viser, enfin qui cherche à séquencer, d'une certaine manière, hein, la radicalisation d'un individu petit à petit, à la retracer. Et effectivement, l'engagement radical relève de toute évidence d'un processus. D'abord, parce qu'à l'inverse de ce que les expressions communes comme « entrer en radicalité » ou « passer à la lutte armée » ou « a fortiori basculer dans la lutte armée ou dans le terrorisme hein, », à l'inverse de ces expressions hein, de sens commun, à l'inverse de ce que ça suggère, elles sont fausses ces expressions, car un individu ne tombe pas dans l'engagement radical. Il y arrive jamais. Pas de cas où, du jour au lendemain, on dit « bon, bah demain, allez, hop, demain, je vais y passer ». Non. Il va y arriver par paliers successifs qui peuvent, dans les faits, être difficiles à dater, voire à identifier, y compris pour lui. Hein. C'est en quelque sorte une progression en consécutif à des choix qui peuvent apparaître mineurs, des petits choix successifs, hein, dont aucun n'apparaît significatif en soi, ou pas forcément, hein, mais qui, in fine, par effet de seuil, par effet de cliquet, hein, va rendre tout retour en arrière difficile, et en l'occurrence, hein, pour le sujet qui est le nôtre, hein, va rendre très difficile la désescalade. On a d'ailleurs des processus un peu équivalents, c'est pas du tout pour comparer les situations, mais on a des processus équivalents hein, dans l'addiction, par exemple, hein, ou l'anorexie. C'est pas du tout pour dire que c'est la même chose. Donc l'engagement à haut risque peut se faire sans réelle prise de conscience de l'individu, qui s'en aperçoit une fois qu'il est poursuivi par la police, etc., quoi. C'est pour ça que je vous ai mis, par exemple, ce témoignage de Patrizio, qui était un militant d'une organisation armée italienne, hein, qui disait cela. C'est arrivé tellement rapidement, enfin, il dit tellement rapidement, mais c'était quand même quelques années. Hein. C'est arrivé tellement rapidement que je n'ai aucun souvenir du moment précis où je me suis rendu compte d'avoir fait un choix. Par ailleurs, il faut également se déprendre d'un autre sens commun, ben, plutôt d'une vision populaire hein, qui est renvoyée souvent par, bon, par les films, hein, sur, il y a beaucoup de films hein, sur ce genre de trajectoire, hein, et qui renvoie l'image, une image fausse qui est que l'engagement radical, le terrorisme, eh bien, s'accompagne nécessairement d'une prise d'armes. Non. C'est évidemment ce que le public, a fortiori les victimes, on voit, hein, mais la plupart des militants de ces organisations restent attachés à des postes logistiques. Hein. Alors il y a dans cette vision, hein, cette vision que nécessairement tous les militants des organisations radicales portent les armes, etc., il y a une vision qui relève, qui peut relever un peu de l'héroïsme hein, ou de la mythologie. Hein. Je vais vous donner un exemple, toujours sur les sujets que je maîtrise le plus, vous l'aurez compris, en entendant peut-être la présentation que Yves Michaud a faite de ma trajectoire intellectuelle, à partir donc des études que j'ai pu conduire sur les organisations armées italiennes. Donc sur le millier de militants d'extrême gauche italiens qui ont été en procès pour subversion contre l'ordre constitutionnel, c'était l'incrimination, hein. Eh bien, 67% n'avaient jamais participé à des actions contre des personnes et 40% n'avaient participé à aucune action armée. Seuls 6% d'entre eux avaient été employés à des actions militaires, alors que près de la moitié n'avaient eu que des fonctions logistiques. Donc voilà ce changement hein, de perspective. Alors comment fait-on concrètement, empiriquement hein, eh bien, on le fait à partir de l'acteur, donc à partir du niveau, je disais tout à l'heure, micro-sociologique, à partir de l'acteur radical, par le recours aux histoires de vie, aux biographies, hein, souvent, alors soit certains ont beaucoup écrit, ou par des entretiens répétés, et de longue durée auprès de ces personnes, hein, avec l'objectif de relier les trois niveaux d'interrogation que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Je vous disais, l'engagement radical, c'est un engagement qui s'inscrit dans la durée et qui met en relation un contexte, une organisation, en l'occurrence violente. En général, il n'y a pas qu'une organisation, d'ailleurs, on va voir, et un individu. Hein. Donc on essaie de relier dans les entretiens ces trois niveaux, hein, de façon à articuler ce que j'ai mis là, hein, trois temps, en fait. Hein. Le temps social, le temps de l'organisation, le temps biographique de l'individu. Comme ça, on redonne chair aux événements, on incarne la radicalisation, à l'inverse de ce que faisaient les sociologues, enfin beaucoup de sociologues des mouvements sociaux, hein, sans verser dans une psychologie qui n'est souvent que de bazar. Alors, comment, par exemple, hein, je vous disais, c'est un engagement qui s'inscrit dans la durée. Hein, et on ne tombe pas comme ça dans un groupe terroriste. Hein, on n'embrasse pas une carrière terroriste qui serait marquée, par exemple, ici, hein, par cette croix, le temps zéro. Hein. Alors, vous voyez qu'on va voir à la fois le niveau microsociologique, donc celui du contexte, le niveau microsociologique, celui de l'individu. Il y aurait un troisième niveau, mais je ne l'ai pas mis parce que ça encombrait inutilement la vignette, la diapositive, qui est le niveau mésosociologique, le niveau intermédiaire, qui est celui de l'organisation, qui est important, évidemment, parce que, par exemple, pour reprendre mes terrains, hein, entrer aux Brigades Rouges en 1970, quand l'organisation naît, c'est pas la même chose qu'entrer aux Brigades Rouges après l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro en 78. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours resituer l'engagement d'un individu A dans le contexte et dans la vie, le moment particulier que connaît l'organisation au moment où il le rejoint. Hein, mais là, je ne l'ai pas mis. Hein. Et donc, le moment de la mobilisation, c'est le moment où un mouvement apparaît publiquement. Souvent, bon, des fois, c'est pas... C'est sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, mais on va dire ce moment, hein, de visibilisation du groupe est souvent marqué par une action éclat. Hein. Par exemple, l'émergence là où le mouvement des femmes va apparaître sur la scène publique en France, c'est en marge, enfin à l'issue des commémorations, hein, pour la libération de Paris, hein, où un groupe de femmes va déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avec cette inscription « Il y a plus inconnu que le soldat, sa femme ». Donc ça, c'est le moment, hein, fondateur, en quelque sorte, de ce qui sera après appelé le MLF. Ça peut être, pour les organisations radicales, le premier attentat, etc. Donc c'est ce moment... Hein, pour l'individu, c'est le moment de l'engagement. Pour le comprendre, eh bien, évidemment, il faut voir en amont, donc en temps moins 1, moins 2, moins 3, ça dépend si on adopte une perspective historique ou non, hein, à la fois donc le contexte rapporté, cette émergence, hein, au contexte progressif de polarisation et de radicalisation politique au niveau macro-sociologique, au niveau micro-sociologique, c'est ce qui est en vert. Eh bien, ce sont les dispositions ou les ressorts de l'engagement de l'individu, et on va voir, hein, qui se situe grandement dans la socialisation. Et puis, après, on va voir l'évolution, hein, ce que devient cet engagement, hein, avec, en général, on a processus au niveau macro, hein, qui est le suivant, une phase d'escalade puis de désescalade, et si on se place du point de vue de l'individu, hein, là aussi en temps T plus 1, T plus 2, T plus 3, hein, est-ce qu'on regarde sur 2 ans, sur 10 ans, enfin bon, peu importe. Au niveau microsociologique, la question qui se pose, c'est quelles sont les conditions qui vont faire que l'individu reste loyal au groupe, à l'organisation qu'il a rejoint, ou fait-il défection, hein, donc les conditions du maintien ou non de l'engagement. Donc voilà un peu le type d'analyse, hein, d'une analyse processuelle. Alors désormais, au cœur des analyses, eh bien, on va travailler sur les réseaux de recrutement, les rétributions du militantisme. Qu'est-ce qu'apporte, quelles sont les, qu'est-ce qu'apporte le militantisme à l'individu, hein, et ces rétributions sont variables dans le temps. À ce qu'on appelle également la socialisation organisationnelle ou institutionnelle, c'est-à-dire que dès lors que vous rejoignez un groupe, quel qu'il soit, hein, d'organisation légale ou pas légale, peu importe, hein, eh bien, l'organisation va en quelque sorte vous façonner. Et puis, le processus est... l'organisation façonne le militant, mais le militant contribue à changer l'organisation également. Hein. Donc, on va étudier comment l'organisation... alors. À la fois d'un point de vue cognitif, d'un point de vue affectif, en modèle le militant. Et puis pour le sujet qui nous intéresse, de l'engagement radical, eh bien on va voir comment l'individu prend son rôle martial, en quelque sorte son rôle guerrier, comment se crée un rôle guerrier, hein, et qu'est-ce qui va conduire un militant qui est d'abord un militant ordinaire à s'enferrer donc dans l'opposition, hein, jusqu'à donc envisager des actes illégaux, voire violents, qui vont être des points de non-retour. L'autre point commun de cette nouvelle approche, donc que l'on observe et en sociologie et en psychologie du terrorisme, c'est également de travailler donc sur ce T. Ah bon, on ne voit plus. Pardon, sur le T+, excusez-moi. La loyauté ou de la défection, hein, c'est-à-dire de travailler sur la sortie de rôle, hein, comment on sort du rôle guerrier, et donc sur la question du désengagement. Alors, sur la question donc de l'engagement radical, et plus précisément encore sur à partir des études sur le terrorisme, eh bien, cette question sur le désengagement a d'abord été initiée dans une perspective privilégiée qui est la perspective de la transitologie. La transitologie, hein, c'est la fin des régimes autoritaires ou des crises politiques sévères qui débouchent sur des processus de réconciliation, hein, comme on a pu en avoir dans le cône sud-américain après les dictatures ou en Afrique du Sud après... à la fin de l'apartheid. C'est ce qu'on appelle la transitologie. C'est des processus donc, de réconciliation d'une société après donc, une crise politique sévère ou une expérience donc, de dictature. Et c'est d'abord dans cette perspective qu'ont été pensées cette question du désengagement et puis d'abord de la démilitarisation des groupes. Et puis, évidemment, cette perspective, comme vous pouvez vous en douter, hein, elle s'est attachée au lendemain du 11 septembre, à la question de la réintégration des djihadistes, sous l'égide d'une nouvelle notion que vous avez peut-être entendue, qui devient maintenant, enfin, ça commence à sortir des cercles des chercheurs, hein, on peut l'entendre à la radio, etc. C'est la déradicalisation, hein, question de la déradicalisation. Alors l'objectif poursuivi par les programmes qu'on appelle les programmes DDR, hein, c'est les programmes désarmement, démobilisation, réintégration. Ces objectifs, hein, l'objectif des programmes DDR et des stratégies du contre-terrorisme, c'est de minimiser les risques de récidive ou plus sobrement de réengagement de l'individu après qu'il se soit désengagé. L'idée, c'est bon, un individu est désengagé du groupe radical, en général, il n'a pas été désengagé volontairement, il a été arrêté. J'expliquerai si j'en ai le temps tout à l'heure. Donc, il est incarcéré et il faut le réhabiliter parce qu'à la sortie de prison, il faut éviter qu'il se re-radicalise et qu'il rejoigne le groupe ou un autre groupe. Donc, ces programmes comportent donc deux volets. Le premier, c'est un enjeu social, hein, c'est la question de la réinsertion de l'ex-terroriste à la vie civile, hein, notamment sur le plan professionnel. Souvent, on cherche à trouver un emploi, un travail, dans le travail social, humanitaire, etc., parce qu'il y a une partie des motivations de ces individus, hein, c'est de servir une cause. Donc là, la réhabilitation, la réintégration, la réinsertion professionnelle peut être facilitée par le fait d'offrir une nouvelle cause, hein, aider les toxicomanes, etc. Et puis, il y a un autre enjeu que celui social, enfin les deux sont combinés, bien entendu, hein, c'est un volet psychologique, c'est-à-dire qu'il faut que ce militant accomplisse une démobilisation culturelle. La démobilisation culturelle, ça ne vient pas de chercheurs sur le terrorisme, c'est un grand historien, John Horn, qui a développé cette idée à propos des soldats de la Première Guerre mondiale, qui devaient être démobilisés culturellement. Hein, qu'est-ce qu'il entendait par la démobilisation culturelle des soldats de la Grande Guerre, hein? Eh bien, il y a trois éléments essentiels. Hein, c'est la déprise de la violence, se déprendre de la réaction violente. C'est la poussée de l'idéal pacifiste. Et c'est la réhabilitation de l'ennemi. Hein, que l'ennemi soit à nouveau humanisé, hein, alors qu'il a subi un processus de déshumanisation. Pour tuer quelqu'un, il faut le déshumaniser d'abord, hein, symboliquement. Alors, suivre pas à pas le processus de déprise de la violence va enrichir le modèle que j'évoquais tout à l'heure, hein, dans un arc qui va donc des processus de pré-radicalisation, de radicalisation, radicalisation violente, des engagements, des radicalisations. Et c'est à ce niveau-là que qui va nous permettre de révéler, de comprendre les spécificités de l'engagement radical. L'engagement radical, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de spécificité à l'engagement radical dans les manières d'y entrer. C'est comme pour l'engagement ordinaire. Mais il a une spécificité, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de s'en sortir, car il exerce donc il a impliqué des coûts, hein, et des effets tels que la sortie est beaucoup plus difficile en raison de coûts d'entrée supérieurs. D'une véritable conversion identitaire que l'individu connaît dans le groupe, d'une dépendance à l'égard de son organisation, une dépendance qui est matérielle, qui est affective, d'un fonctionnement à huis clos également du groupe, hein, qui est propice à l'isolement pratique et cognitif du militant, le poids accru de la répression, évidemment, qui fait aussi qui joue, hein. Et puis enfin, l'idée que dans ce type d'engagement, il y a très peu d'échappatoires au groupe ou de vie alternative. Par exemple, parce que l'individu, il sait que s'il quitte le groupe, il risque, mettons, 15 ans de prison. Alors 15 ans de prison, même s'il a envie de sortir, c'est coûteux, 15 ans de prison. Hein. Ou alors, il sait que s'il sort, il va devenir vulnérable, car il perd la protection de son groupe. Et comme souvent, on est dans des conflits où il y a des concurrences entre groupes, voire des oppositions entre groupes ennemis, hein, eh bien, il va être plus vulnérable au groupe ennemi. Donc, cette nouvelle approche, elle suit donc une hypothèse continuiste, hein, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas préalablement entre les niveaux de participation politique, et surtout, on évite tout présupposé normatif, hein, qui nous conduirait à considérer que c'est un engagement anormal. Donc, on considère que l'engagement radical, maintenant, ne requiert pas d'outils d'analyse particuliers, car le militant, il devient radical. Et cette approche a permis trois choses qui me paraissent essentielles. D'une part, il n'y a aucun déterminant, ni psychologique, ni structurel, particulier à ce type d'engagement. Deuxièmement, la radicalisation obéit à des dynamiques de groupe, dans un contexte particulier. Alors, si vous êtes fidèle à ce cycle de conférences, eh bien, une partie de ce que je vais raconter maintenant, eh bien, je pense que Jacques Semelin les a déjà évoqués, notamment donc sur ce volet, hein, de l'importance du groupe, hein, dans les processus de radicalisation. Et puis, troisième conclusion, hein, comme je vous le disais, l'engagement radical, il exerce des effets biographiques plus intenses que l'engagement ordinaire, au point de rendre sa sortie plus difficile. Voilà. Donc la perspective, elle conduit à laisser derrière soi la recherche de prédispositions à l'engagement radical. Des prédispositions qui s'inscriraient dans un contexte, dans un profil psychologique particulier ou dans des déterminants sociologiques lourds. Alors pourquoi ne recherche n'ont plus ces prédispositions qui seraient particulières à l'engagement radical, parce que ça n'existe pas, hein, comme le dit Organ, toujours ce psychologue, hein, parce que qualities are not causes, les qualités ne sont pas les causes. Hein. Ainsi, on réfute dorénavant les modèles à prétention universelle, comme par exemple l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure de la frustration-agression. L'agression serait toujours une réponse à la frustration. Alors pourquoi on rejette ça ? Ben, on le rejette parce que c'est contredit par l'examen des faits empiriques, contredit cette hypothèse. Hein. Les militants radicaux ne viennent pas, le plus souvent, des catégories sociales les plus défavorisées. Ou les plus marginalisés. C'est souvent, ils viennent plutôt de classes moyennes, voire des fois de classes moyennes supérieures dans leur société. Donc ce ne sont pas les plus frustrés qui sont les plus agressifs, pour reprendre l'image de la frustration-agression. Et puis surtout, ce modèle qui se voulait universel, il confond une chose, il confond entre corrélation et causalité. C'est-à-dire que quand bien même ce serait le cas, quand bien même les individus qui choisissent la violence sont, ça s'explique parce qu'ils sont frustrés. Ben, quand bien même ça serait le cas, ce qui n'est pas le cas, eh bien tous les frustrés ne choisissent pas, ne vont pas passer ne vont pas rejoindre une organisation terroriste. Et heureusement, parce que vu le niveau de frustration, il y aurait du souci à se faire. Donc voilà ce qu'on dit. Il y a une corrélation, mais c'est pas une causalité. D'autre part, si on l'abandonne, cette recherche, c'est que, comme je l'ai dit, je le martèle, l'engagement radical ne diffère pas par essence des logiques de l'engagement ordinaire. Dans tout type d'engagement, qu'il soit ordinaire, non violent, radical, violent, on retrouve des traits communs. La socialisation primaire, on va dire, cette période d'acquisition des codes, des codes, des valeurs d'une société dans l'enfance, l'enfance jusqu'à l'adolescence, notamment auprès de la famille, ça joue un grand rôle. Pour l'engagement radical, cette socialisation primaire et souvent familiale, elle joue un grand rôle dans la transmission d'une mémoire du conflit. Ainsi, peut-on expliquer le fait que l'on observe fréquemment, dans les cas de radicalisation, des radicalisations intergénérationnelles. Je l'évoquais tout à l'heure, on retrouve ça chez les Basques, par exemple, chez les Corses, dans les groupes armés colombiens. On a plusieurs générations radicales. Et la génération des enfants, élevés donc par des parents qui étaient en opposition contre l'État espagnol, etc. Donc ces enfants se radicalisent. Mais ils ont baigné dans un milieu familial qui était déjà militant. Ça permet de comprendre également des radicalisations par groupe communautaire entier. Par exemple, les études sur le PKK, le parti kurde du Kurdistan, ou le Hezbollah turc, on voit des villages entiers rejoindre le PKK ou le Hezbollah. Ou encore des radicalisations par tribu, ou par clan, ou par caste. Ça a été étudié par Gilles de Ronsoro à propos des Afghans, par exemple, par un autre jeune chercheur français, Gaillet, à propos des Sikhs du Pendjab, qui connaître processus de radicalisation, c'est des castes entières qui passent dans un groupe armé. On a souvent des cas de figure où le choix, embrasser une carrière violente nécessite le soutien de la famille, au moins le soutien moral de la famille. Par exemple, une enquête d'Amélie Blum, c'est une autre chercheuse, qui a montré à propos des djihadistes pakistanais que 78% de ces djihadistes ont été encouragés à rejoindre l'organisation par leur famille, par exemple. Alors, pour donner un exemple, hein, j'ai repris l'exemple, mais bon, je vous la laisse lire, je ne la lis pas, hein, à propos, donc toujours, hein, d'un autre militant d'une organisation armée italienne, hein, qui situe son militantisme dans l'organisation donc en question, en continuité avec la résistance. Hein, et beaucoup renvoient comme ça à la résistance, ont eu le sentiment de parachever un engagement familial inaccompli par leurs aînés. Ce que, outre le rôle donc de la socialisation primaire, hein, on voit dans l'engagement radical comme dans l'engagement ordinaire, on va dire, hein, le poids des réseaux de sociabilité, hein, le poids des amis, par exemple. Hein, par exemple, à l'ETA, au Hezbollah libanais, hein, très clairement, il y a un rôle intégrateur des groupes de jeunes, hein, qui sont plus ou moins encadrés par les organisations en question, hein, et qui, d'une certaine manière, c'est un pré-recrutement, hein, qui va favoriser le fait de rejoindre l'organisation. Hein. Car l'engagement, en général, pas simplement radical, eh bien, c'est rarement un acte isolé. Hein. Il s'accomplit souvent par groupe affinitaire, groupe d'amis ou en couple, par exemple. Hein. De la même façon, hein, les facteurs structuraux qui avaient été dégagés par... je suis très en retard, j'avais dit à Yves que j'allais terminer tôt, mais bon. Les facteurs structuraux qui avaient été dégagés par les sociologues, ben là aussi, ça ne marche pas. Hein. Par exemple, on a deux thèses centrales qui avaient été développées dans la littérature sociologique, hein, pour expliquer la radicalisation et qui sont aujourd'hui totalement revisitées, à savoir la répression et l'isolement social du groupe radical vis-à-vis du groupe au nom duquel il entend lutter, hein, donc la classe ouvrière, les Basques, la communauté de croyants, etc. Alors, on sait aujourd'hui que suivant les cas, ces deux variables n'exercent pas toujours un effet de radicalisation. Ça peut avoir au contraire un effet inverse. Comme je suis en retard, je vais simplement évoquer la question de la répression. Dans ces différentes expressions, hein, que ce soit la torture, l'élimination physique ou l'incarcération, eh bien, la répression peut avoir des effets, des conséquences opposées. Hein. Soit inhibitrice, donc elle freine la radicalisation, ou elle empêche la radicalisation, soit motrice de radicalisation. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de son degré, et ça dépend du moment où elle intervient. Globalement, mais là aussi, hein, ce n'est pas des lois générales, ça ne marche pas dans tous les coups, on va dire. Hein. Tendanciellement, si la répression est de caractère ciblé, donc si elle cible les chefs politiques des organisations en question, ça va plutôt avoir un effet démobilisant. En revanche, si la violence est indiscriminée, hein, tous ceux qui portent une barbe sont arrêtés, torturés, etc., ça va au contraire avoir un effet plutôt de radicalisation et inciter des jeunes qui ne pensaient pas rejoindre l'organisation à la rejoindre par sentiment d'indignation. Ça dépend aussi donc non seulement de son degré, mais du moment où la répression intervient dans la vie de l'organisation. Donc, cette répression, elle peut aussi bien décourager les activistes, en tout cas les activistes potentiels, que, au contraire, provoquer un choc moral et inciter à l'action. Exemple de choc moral, très clairement pour les militants sikhs Punjabi, hein, qui passent à la lutte armée, hein, après l'attaque en 84 par l'armée indienne, hein, contre un temple sikh au Punjab qui va faire des milliers de morts, hein, et qui va provoquer donc ce choc moral. Autre exemple, hein, pour les Basques, hein, les exécutions de Burgos ont joué ce rôle, ou encore pour l'IRA, la mort de Bobby Sands, peut-être que certains s'en souviennent, et plus encore, évidemment, le Bloody Sunday de janvier 72. Alors, donc dans l'engagement, donc le fait de s'engager, il n'y a pas de différence entre dans les logiques d'engagement entre dans l'engagement ordinaire et l'engagement radical. Mais dans l'engagement radical, le poids de l'institution sur l'individu est plus fort, plus profond, au point donc d'exercer des effets pesants sur les conditions et les possibilités même de sortir de l'organisation. Et c'est là où il y a une spécificité réelle de l'engagement radical. En d'autres termes, il n'y a pas de différence dans le fait de s'engager, mais il y a une différence entre l'engagement radical et l'engagement ordinaire dans le fait d'être engagé, dans la dimension, je dirais, un peu affective, dans l'attachement, l'attachement à la fois affectif et matériel au groupe, dans un groupe, aux orientations particulières, on va le voir, et avec des traits qui s'accentuent au fil du temps. Alors, je disais, il n'y a pas vraiment de loi générale, c'est vrai, mais l'élévation des niveaux de violence, eh bien, est toujours favorisée par, très fréquemment favorisée, par deux facteurs qui sont étroitement associés. C'est d'une part la compétition entre des groupes opposés ou des groupes de même orientation. Cette opposition sur le terrain va produire une surenchère et un apprentissage de la violence. Lorsque un groupe se confronte physiquement à un contre-mouvement, a fortiori si ce contre-mouvement ou cette contre-organisation se fait l'allié ou l'auxiliaire des forces répressives, eh bien ça a un effet d'escalade des niveaux de violence dans la rue, par exemple. Ou encore la concurrence entre organisations de même obédience, mais qui vont mesurer leur ferveur à la cause sur le terrain physique. On a ça très clairement dans les années 68, en France comme en Italie, où un des étalons de la ferveur révolutionnaire des groupes d'extrême gauche était mesuré à la capacité et l'appétence des militants à déployer une force physique contre la police, contre les groupes d'extrême droite, etc. D'ailleurs, on sait que pour l'Italie, les services d'ordre des organisations d'extrême gauche légales ont été des viviers pour les groupes. Les futurs groupes armés, car la spécialisation des services d'ordre préfigure la professionnalisation militaire à venir. Et puis surtout, cette logique de compétition sur le terrain physique, ça favorise l'émergence de groupes de pairs qui sont soudés par une même valorisation du capital physique, par un même ethos guerrier, par une communauté d'expérience de combat. Et ce sont des groupes qui, souvent, disposent d'une véritable aura auprès des sympathisants, notamment au travers de leur capital de virilité. Ça, la question de la virilité, on la retrouve sur les terrains que j'ai étudiés, mais également, par exemple, ça a été montré à propos des auteurs des attentats de Londres en 2005, qui développaient une forte identité virile. On y reviendra éventuellement, si vous le voulez, dans le débat. Et puis on trouve en toile de fond de la radicalité, les prémices du fonctionnement du groupe fermé et exclusif à venir. D'une part, on a un projet de société alternatif, de rupture. Alors, ça ne veut pas dire que la maîtrise d'une idéologie de transformation révolutionnaire soit une condition préalable d'entrée. Beaucoup de gens ne rejoignent pas un groupe par idéologie. L'idéologie, elle s'acquiert ensuite dans le groupe, ça fait partie de la socialisation institutionnelle. Mais il y a ce projet donc de société, même si ça ne demande pas une grande connaissance idéologique. Alors on sait, à propos des djihadistes, le conditionnement notamment idéologique qui est opéré dans les groupes d'études islamiques ou dans les madrasas au Pakistan, par exemple. On trouve également au sein de ces groupes une coupure rigide entre l'in-group, ce qu'on appelle l'in-group, et l'out-group, donc son groupe et tout ce qui n'est pas l'autre groupe, tout ce qui n'est pas le groupe, qui progressivement d'adversaire va devenir ennemi. Hein. On est soit avec, soit on est contre, hein, dans la logique des groupes radicaux. Hein. Et cette coupure, cette, entre nous et eux, hein, eh bien, elle se nourrit évidemment de l'idée d'avant-garde. Et cette idée, elle trouve confirmation et se renforce au gré des expériences concrètes d'adversité, hein, par la coupure du militant avec ses liens antérieurs et par l'acquisition d'un, d'un ethos particulier. Alors, c'est assez propre, hein, aussi au militantisme. Il n'y a rien de très particulier, sauf dans les dynamiques de petits groupes. Des dynamiques de petits groupes que, certainement évoquées par, par Semelin, hein, ou qui ont été étudiées dans un tout autre contexte, hein, par Christopher Browning, dans son, son livre majeur, hein, qui est « Des hommes ordinaires », hein, où il a étudié comment des individus ordinaires, hein, avaient pu massacrer 38 000 juifs d'une balle dans la tête, hein, et il l'explique par des dynamiques de groupe. Alors, là aussi, hein, ce n'est pas une comparaison, hein, mais ça révèle donc le poids des dynamiques de groupe que je vais évoquer maintenant. Effectivement, ça a été noté notamment par Marc Sageman à propos des djihadistes, hein, les liens internes sont plus importants que les facteurs idéologiques pour expliquer, hein, donc ce type de militantisme. Hein, car les petits groupes fournissent un support émotionnel, social, un sentiment de sécurité. Il valorise un entre-soi, un protecteur, et qui se referme progressivement sur lui-même et va finir donc par renvoyer l'image d'une société par définition hostile qu'il faut combattre. Ce mode de fonctionnement, hein, par des petits groupes fermés, hein, est commun à tous les groupes radicaux, hein, même ceux qui sont peu organisés, hein, je pense à notamment à la nébuleuse d'extrême droite, hein, qui a été beaucoup étudiée dans les pays scandinaves, hein, des groupes de copains, en fait, hein, qui font des ratonnades, qui envisagent des attentats contre les étrangers, etc. Hein. Mais évidemment, ce type de fonctionnement, il est majeur dans les groupes les plus fermés d'entre eux, hein, à savoir les sociétés clandestines, hein, les sociétés secrètes ou clandestines, hein, qui sont proches des institutions totales, hein, puisque l'organisation prend en charge toute la vie de l'individu, hein, et l'individu est totalement dépendant de l'organisation lorsqu'il est clandestin. Alors l'engagement dans ce type de groupe, hein, implique nécessairement une rupture biographique lourde, hein, qui passe par plusieurs éléments. J'en retiendrai quatre. D'une part, la renonciation à son identité antérieure pour renaître littéralement par le biais notamment de l'attribution d'un nom de guerre. On retrouve ça dans tous les groupes radicaux. L'individu, une fois qu'il entre dans le groupe, il se dépouille, d'abord symboliquement, hein, de son identité préalable, puisqu'il adopte un autre nom, un autre baptême en quelque sorte. Deuxième élément, l'intériorisation de règles de comportement qui sont codifiées avec minutie et qui peuvent aller jusqu'à porter sur les relations affectives et sexuelles des internes au groupe. Hein. Troisièmement, le recours à des techniques de mortification plus ou moins sévères. Alors ça peut aller dès lors que tu rejoins le groupe, il faut abandonner, par exemple, les attributs bourgeois que seraient les produits de la culture de masse, les disques, etc., dans les groupes d'extrême gauche, par exemple. Ça peut aller aux séances collectives d'autocritique, dans les groupes Mao, par exemple, jusqu'aux pratiques de coercition physique infligées à autrui ou sur soi. Hein. Exemple, hein, c'est un épisode dramatique, hein, de militants de l'armée rouge unifiée japonaise, hein, qui s'étaient retirés en 72 à une vingtaine pour éprouver leur ferveur révolutionnaire. Et ben 14 des 20 en question ont été retrouvés morts ils étaient tombés sous la torture et les coups de leurs camarades pour mesurer leur degré de fidélité à la cause. Quatrièmement, éventuellement, outre l'entraînement militaire, le militant va être obligé de commettre un crime, c'est pas fréquent, mais ça existe, de commettre un crime, éventuellement odieux, qui attache l'individu au groupe et qui surtout va engager un processus de désensibilisation à l'empathie pour les autres. Alors ça, c'est le cas, par exemple, pour les enfants soldats qui ont été enrôlés de force par les talibans. Alors, au terme de cette trajectoire radicale que représente le passage à la clandestinité, car le passage à la clandestinité, ça fait véritablement une frontière en matériel et symbolique, c'est opéré une véritable alternation identitaire, on dirait une conversion, dans un langage plus commun, c'est-à-dire un changement de monde radical par une socialisation qui est en rupture totale avec la socialisation primaire. Alors, peu a été fait sur les effets cognitifs et psychologiques de la vie en clandestinité. Je citerai quelques éléments qu'il faudrait creuser. C'est la perte de rapport au réel du fait de la clôture avec le monde extérieur. C'est la réduction de la vie à une seule de ses sphères, la sphère militante, puisque vous ne travaillez plus, vous n'avez plus de famille, vous avez rompu avec votre famille, vos amis ne sont que les amis du groupe. Et évidemment, troisième élément, la dépendance matérielle, financière, affective à l'égard de l'organisation, puisque le réseau de relations se limite aux quelques personnes qui connaissent et qui partagent la situation de l'individu. Et c'est pourquoi l'engagement normatif, c'est-à-dire l'obligation de rester, est plus fort dans une société secrète, close sur elle-même et en but à l'adversité. Alors, cette dynamique propre aux petits groupes explique que la carrière déviante poursuit sa trajectoire de radicalisation, parfois hors effet de contexte, je dirais en roue libre. C'est-à-dire, l'individu continue à militer dans ce groupe, continue éventuellement à se radicaliser, alors même que ses espérances de rupture à l'origine de son engagement ou le sentiment d'efficacité de son action se sont évanouis. Un militant italien arrêté en 79 me disait, il disait ne plus y croire 2 ans avant son arrestation en 79, donc à partir de 77 il n'y croit plus, et il parle entre temps d'un progressif abandon du militantisme non abouti dans la mesure où son désir de renouer avec une vie normale achoppe face aux conséquences irréversibles, c'est son terme, irréversibles, de ses choix antérieurs. Il évoque l'éloignement des gens, de la réalité, la perte du sentiment du réel, la clandestinité toujours plus nécessaire. Alors, il ne notait pas, cependant, que son organisation, pendant le moment où il commençait donc à ne plus y croire, mais il reste quand même 2 ans, alors qu'il n'y croit plus à ses espoirs de révolution, il ne note pas que son organisation connaît alors une crise interne et le pays, donc l'Italie, une campagne d'opinion et de répression contre le terrorisme sans précédent. Et c'est important de le noter. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en période de croissance du cycle de protestation et de conflictualité sociale, le soutien social, même très restreint, peut aider l'activiste, le militant, à résister au stress. Et à éviter le burn-out, l'épuisement. Et la solidité du groupe permet d'ignorer la dissonance cognitive. On dit la dissonance cognitive, c'est le décalage entre ce à quoi on croit et ce qui existe, ce qui apparaît dans le réel. En revanche, les certitudes s'ébranlent quand le contexte change avec le degré d'acceptabilité du sacrifice militant. Un contexte changeant qui va conduire, par exemple, ceux qui étaient considérés auparavant comme des révolutionnaires à être désormais appelés, du terme moins flatteur, de terroristes ou d'aventuriers. Et c'est là où on voit les effets du contexte. Dès lors qu'il y a un moindre soutien, même mineur, hein, un changement en quelque sorte hein, dans le niveau d'acceptabilité, eh bien, ça permet en quelque sorte au doute d'apparaître et de s'agrandir en quelque sorte. Alors dans ces conditions, et je m'arrêterai là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, comment expliquer que le militant reste malgré tout hein? Pourquoi reste-t-il dans le groupe alors même qu'il dit ne plus y croire ou qu'il dit que c'est particulièrement pesant et qu'il ne supporte plus le groupe? Eh bien, les témoignages apportent plusieurs réponses. D'une part, comme le disait Batson, plus un engagement a été coûteux en termes de sacrifice et d'investissement, plus l'individu est enclin à ignorer les informations qui le remettent en cause et donc à s'y enferrer. Hein. Plus j'en ai bavé, plus je reste parce que j'en ai tellement bavé qu'on l'a dans d'autres domaines hein, d'ailleurs. D'autant plus donc dans des petits groupes fermés qui sont marqués à la fois par une pauvreté cognitive et une suraffectivité. Hein. Donc du fait de la clandestinité, le militant ne dispose plus des différentes sphères de vie susceptibles d'entrer en concurrence ou en conflit avec son engagement, tandis que les très forts liens affectifs internes au groupe hein, ne sont pas contrebalancés par des relations extérieures hein, qui pourraient les ébranler ou les contrarier. Hein. Et puis enfin, passé un certain niveau d'implication, le retour en arrière apparaît, si ce n'est impossible, du moins extrêmement coûteux en raison de ses conséquences biographiques. Et c'est là qu'interviennent les programmes de déradicalisation. Mais ça sera pour une autre conférence si l'Université de tous les savoirs était poursuivie, ce qui ne va pas être le cas malheureusement. Je vous remercie. Excusez-moi.
Bien. Merci Isabelle Sommier. Donc nous passons aux questions. Manifestez-vous. Il y en a une là-haut, s'il vous plaît. Une en haut, monsieur. Il y en a une aussi devant, d'accord. Tout en haut, à droite.
Oui, vous avez parlé, bonjour madame déjà, merci de votre présidente de conférence. Vous avez parlé de la radicalisation violente. Dans cette radicalisation violente, je distinguerai deux formes. Celle des terroristes qui n'engagent pas forcément leur vie et qui vont déposer des bombes ou tuer des personnes, et ceux qui sont programmés comme ça s'est passé aux États-Unis le 11 septembre 2001 et qui savent qu'ils vont mourir. Comment expliquez-vous la démarche de ces gens-là, qui ne sont pas des imbéciles en principe, à donner leur vie pour une idée, disons, religieuse?
Je réponds tout de suite. Alors, d'abord, les motivations religieuses sont historiquement, et sur l'histoire longue, hein, ont été les plus létales en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on distingue différents types de terrorisme, et le terrorisme de type religieux, c'est celui qui a toujours occasionné le plus grand nombre de morts. Hein. Et il y a d'ailleurs un grand nombre de termes utilisés hein, par les groupes terroristes sont des termes religieux. Hein, sacré, hein, fanatisme, etc. Il y a sans doute alors, les actions kamikazes sont en très net développement effectivement depuis quelques années hein, et sur des motifs donc religieux. Il y a sans doute un défi qui est un défi lancé un peu à l'Occident hein, où nous sommes des sociétés très consuméristes, très individualistes. Et il y a en quelque sorte un message hein, au travers, sans du tout les justifier, hein, ces actions kamikazes qui est un message un peu qui renvoie à notre pauvreté spirituelle hein, et à notre basse matérialité en quelque sorte. Nous pouvons sacrifier nos vies au nom d'une cause alors que vous voterez en quelque sorte hein, dans la consommation, etc. Je pense que c'est une question qu'il ne faut pas, enfin, une dimension hein, de défi qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a surtout un conditionnement extraordinaire hein, dans la préparation de ces militants à sacrifier leur vie au nom de, d'un paradis qui les attendrait. Hein. Et il faut bien noter aussi que ce conditionnement, il s'opère souvent très, très tôt, hein, notamment donc dans les madrasas au Pakistan, où des enfants sont endoctrinés à l'idée hein, qu'ils pourraient être appelés à sacrifier leur vie hein, au nom du prophète qu'ils rejoindraient ensuite. Quoi. Donc là, il y a très clairement un conditionnement hein, qui relève presque du conditionnement sectaire. Hein. Et d'ailleurs, dans les groupes les plus extrêmes, comme ceux que vous évoquez, hein, les méthodes en quelque sorte hein, de déradicalisation sont très proches des méthodes qui sont utilisées depuis les années 70 sur des individus qui ont été connu une expérience sectaire hein, où ils sont littéralement ils ont été programmés, il s'agit là de les déprogrammer quoi.
Ici devant.
Oui, Francis Rossard, psychanalyste. Je me demandais, en écoutant parmi les points importants que vous développiez, cette question de la trajectoire hors contextualisation, si on ne pourrait pas appeler ça le syndrome de Lorenzaccio, hein, c'est-à-dire au fond, ce crime et tout ce qui reste de ma vertu. Bon, en ce qui concerne la psychologie, je partage tout à fait votre point de vue quant à une critique d'une vision psychologisante, causaliste du sujet radical. Ceci étant, vous revendiquez, je pense qu'on peut tout à fait vous l'accorder, le droit pour la sociologie, la microsociologie de s'intéresser à l'individu. On peut aussi évidemment permettre à la psychologie de s'intéresser au groupe. Et là, je crois qu'il y a quand même dans les années 50, hein, les descriptions de Wilfrid Bion, un psychanalyste britannique ayant une expérience militaire, qui décrit quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que vous décrivez, c'est-à-dire les groupes schizoparanoïdes, les groupes en attente d'un messie, les hypothèses de base couplage, vous avez parlé aussi des engagements en couple, et donc toute une dynamique de groupe, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors il ne s'agit pas simplement de changer d'étiquette, de dire on va faire de la psychologie à la place de la sociologie, c'est parce que cette discipline, en l'occurrence la psychanalyse de groupe, elle apporte aussi d'autres outils que les vôtres qui peuvent sans doute être complémentaires, l'étude de l'inconscient, du fantasme, etc. Je vous remercie.
Écoutez, ça n'appelle pas vraiment de réponse à part simplement de vous remercier parce que je ne connaissais pas, donc je vais pouvoir me redire le nom tout à l'heure, si vous voulez bien, hein, parce que c'est tout à fait intéressant. Même si on est assez peu nombreux encore, mais ça commence à arriver, c'est-à-dire l'idée que, surtout en France, la sociologie est née avec une opposition très forte à la psychologie hein, et qui a été rigidifiée de façon exagérée par l'héritage. Une lecture de Durkheim, je ne partage pas du tout hein, cette opposition entre psychologie et sociologie. Hein, et effectivement, je pense qu'on faudrait travailler ensemble. Quoi. Mais ça commence à être un petit peu plus entendu, mais on reste assez minoritaire. Et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'il y avait ce groupe Violence qui nous avait permis de dialoguer avec des disciplines que je ne connaissais pas. Merci en tout cas.
Merci. Oui. J'avais deux, trois petites questions extrêmement courtes qui sont d'ordre politique. Donc, première question déjà par rapport à la première question qui a été posée sur l'idéologie religieuse et le sacrifice de soi pour le paradis. Est-ce que nous n'avons pas tendance, et notamment en ce qui concerne le 11 septembre, est-ce que nous n'avons pas tendance finalement à dépolitiser aussi un peu trop la question au profit d'un faux paradigme qui serait en fait celui du religieux, alors que fondamentalement ce sont des enjeux géopolitiques qui se jouent et qui se sont joués dans les attentats du 11 septembre. Donc est-ce que finalement on ne prend pas le religieux à défaut finalement de pouvoir analyser une situation politique extrêmement complexe. Deuxième question par rapport à la situation actuelle en France, comment est-ce que vous, en tant que politologue, vous évaluez la montée des extrémismes en fait, tout simplement. Il il y a un repli identitaire que moi je trouve extrêmement inquiétant, une fermeture sur soi finalement par rapport à l'autre et particulièrement par rapport à l'étranger qui me pose énormément de questions et donc je voulais savoir comment est-ce que vous analysez ça. Après, sur un point de vue individuel, à partir de quel moment finalement on peut commencer à s'inquiéter de la radicalisation d'un individu? Quels sont les premiers symptômes? Quels sont les premiers signaux à partir desquels il faut commencer à se poser des questions?
Trois bonnes questions.
Ouais. Trois questions difficiles. Alors, sur la première, vous avez raison. Vous savez, quand on dit... c'est tout le problème des catégories. À la fois, les catégories, ça permet de penser, mais évidemment, ça simplifie, ça renferme, etc. Bon, il se trouve qu'on a pris l'habitude de distinguer entre différents types de terrorisme, terrorisme religieux, terrorisme indépendantiste ou communautaire, terrorisme révolutionnaire. Ça permet de penser, mais évidemment, beaucoup de groupes relèvent de différentes catégories à la fois. Par exemple, les groupes palestiniens, il y a un peu des deux, quoi. Hein. Et puis, ça dépend aussi de la façon dont on les perçoit de l'extérieur, dont on les labellise, dont on les étiquette. Donc, très clairement, aujourd'hui, un certain nombre de groupes qui sont qualifiés de groupes terroristes de type religieux auraient pu, peut-être, il y a quelques années, quelques décennies, être qualifiés de groupes révolutionnaire, parce que de toute façon, la dimension révolutionnaire, elle existe dans ces groupes. Hein. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a une simplification. Mais bon, elle est en même temps, cette simplification, elle est significative de la perception des choses que nous avons. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui ethnicise les problèmes sociaux, sous une tendance à l'islamophobie assez marquée, a tendance à analyser sous le prisme du religieux des comportements qui relèvent d'une réaction à une ségrégation sociale, aux discriminations, etc. Je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça qu'on... c'est significatif de la façon dont à la fois on perçoit le problème et, ce faisant, certainement, on renferme ces gens dans leur identité religieuse, ou une identité religieuse supposée. Parce qu'il y a un autre élément également, c'est que dans cet appel à la religion, souvent masque des intérêts qui n'ont rien de spirituel, de religieux, etc. Il y a aussi une instrumentalisation de l'autre côté, si vous voulez, de cette question. Je ne sais pas si pour la première question, ça... D'accord. La deuxième... Alors la deuxième, moi, je n'ai pas d'évaluation, je ne suis pas une experte. Et je revendique absolument la différence de position entre la démarche du chercheur et la démarche de l'expert. Je ne dis pas qu'un expert, enfin un expert peut être un chercheur, ou pas d'ailleurs. Mais si vous voulez, je n'ai pas d'outils pour mesurer quantitativement le niveau de radicalisation, même si très clairement, comme tout un chacun, parce que on peut percevoir effectivement des réflexes de clôture sur soi et de renfermement communautaire très 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 clairement. Pour ce qui est des individus qui pourraient être susceptibles de passer à l'acte dans un attentat.
Comment sait-on si votre voisin va devenir terroriste, c'est ça?
Oui, alors bon, Valls dit une centaine de mairies en France. D'après des chercheurs, ça serait beaucoup plus. Pour la Grande-Bretagne, l'évaluation, c'est à peu près 2000 personnes qui sont surveillées et qui seraient susceptibles de passer à l'acte. S'il y a des signes, c'est plutôt bon signe, si je peux me permettre, quoi. Mais je veux dire par là, parce qu'il y a une stratégie aussi qui est d'aller... Enfin bon, moi, je ne travaille pas avec les renseignements généraux, mais il y a une stratégie qui est au contraire de se fondre totalement dans la masse et voire de consommer de l'alcool de façon ostentatoire, etc., pour justement, à la reconnaître à les siens à la fin, quoi, justement pour éviter ces signes de reconnaissance qui pouvaient être l'habillement, qui pouvaient être des discours radicaux et surtout cette clôture, justement, cette clôture vis-à-vis des autres et notamment des femmes. Des gens qui ne veulent plus serrer la main à une femme, qui ne veulent plus, qui se coupent de leurs amis la rupture avec les cercles de sociabilité antérieure, c'est mauvais signe. A fortiori, si ça se double d'une de nouveaux cercles fermés, quoi.
Bien, ben nous allons en tenir là parce que le temps est dépassé. Je vous remercie beaucoup, Isabelle. Et à demain pour les points de vue des théologiens. Merci.